Nous sommes ici devant le département d'État. C'est ici que s'élabore normalement la politique étrangère de la plus grande puissance mondiale. C'est un gros bâtiment qui date des années 40. À l'origine, vous savez, il devait abriter le ministère de la guerre. Et puis, ils ont jugé que c'était trop petit. Ils sont partis au Pentagone, de l'autre côté du Potomac.
Alors, il y a 8000 fonctionnaires qui travaillent ici sur la diplomatie américaine. Il paraît que c'est le troisième bâtiment fédéral le plus grand, après le Pentagone, qui est évidemment énorme, et le bâtiment Ronald Reagan, qui est un bâtiment administratif du côté de la Maison-Blanche.
Et l'édifice principal porte le nom Harry Truman, le seul président sous lequel la bombe atomique a été utilisée par les États-Unis. Alors, je ne sais pas ce que ça dit sur la diplomatie.
You have your ID on you? Empty everything out your pockets?
No, it's not. Donald Trump a bouleversé tous les codes, hein, brisé tous les tabous en matière de politique étrangère et renverse parfois la table d'un simple tweet. Et ce sont ses agissements en matière de politique étrangère qui l'ont conduit à être mis en accusation devant le Congrès. La planète Trump, c'est le titre de cet épisode 7 du podcast des radios francophones de Washington DC. Bonjour.
You'll make a right, go all the way down, you will see it on your left hand side.
Ok. Il est sûr que c'est à gauche, Anne.
Elle a dit à gauche ou à droite? Elle a dit à gauche, ah, et tout droit et après à droite.
They want to destroy you and they want to destroy our country.
Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry, and so unproductive.
Washington, D.C.
This is not an ordinary election.
Nous voilà installés sur la mezzanine au département d'État. C'est ici que les correspondants du State, comme on dit à Washington, font tout leur direct pour les télévisions. On est ici en cette semaine historique du procès de Donald Trump parce que ce sont les manières peu orthodoxes en diplomatie du président qui ont entraîné cette procédure de destitution et aussi parce que la politique étrangère est revenue un peu au cœur de la campagne. On a vu les démocrates dans leur dernier débat lui consacrer une bonne demi-heure après l'exécution du général iranien Qassem Soleimani en Irak. Alors, on va pas être exhaustif, il faudrait 2, 3, 4, 5 heures pour ça, mais on va tâcher aujourd'hui de brosser les grandes lignes de la politique étrangère du président pour en parler aujourd'hui.
Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada.
Sonia Dridi, RTBF.
Grégory Philips, France Info.
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Et Anne Corpet, RFI.
Hear ye, hear ye, hear ye. All persons are commanded to keep silent on pain of imprisonment. While the House of Representatives is exhibiting to the Senate of the United States articles of impeachment against Donald John Trump, President of the United States.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'annonce officielle de l'ouverture du procès de Donald Trump devant le Sénat. Procès historique, donc, qui a commencé cette semaine. Et à l'origine de cette procédure, il y a...
It was actually a beautiful conversation. You take a look at that call, it was perfect.
Cette conversation avec le président ukrainien, un coup de fil parfait, une très belle conversation, répète sans cesse le président. Mais les auditions devant la Chambre ont révélé les méthodes déployées par Donald Trump en Ukraine. On a parlé beaucoup de ce réseau diplomatique parallèle, Grégory.
C'est en tout cas ce que tous les diplomates qui ont été auditionnés par la Chambre des représentants ont parfaitement décrit. Ils étaient en poste et puis il y avait au-dessus d'eux quelqu'un qui agissait notamment par des contacts avec la présidence ukrainienne et eux n'avaient quasiment aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'ils apprenaient ce qui se passait soit directement à la Maison-Blanche, soit via des conseillers de Donald Trump.
Et c'est quelqu'un, c'était Rudolph Giuliani.
Oui, et d'ailleurs, parlant de réseaux diplomatiques différents, il y a cette ambassadrice américaine, Marie Yovanovitch, qui était en poste à Kiev. Elle a perdu son travail. Un matin, on lui a dit « Tu rentres à Washington, ce n'est pas que tu fais un mauvais travail, mais le président a perdu ta confiance. » Et ce qu'on a appris finalement, c'est qu'il y a des gens, y compris Rudy Giuliani, donc l'avocat personnel du président, certains de ses associés, qui voulait la voir partir, qui faisait campagne pour la voir partir. Et on a appris la semaine dernière que l'Ukraine a déclenché même une enquête criminelle pour savoir s'il n'y a pas eu surveillance illégale, imaginez, de l'ambassadrice Yovanovitch.
Et puis aussi rappeler que le grand boss du département d'État, ici Mike Pompeo, fait partie aussi d'une certaine manière de ce cercle intime du président. Pompeo est mouillé lui aussi dans l'affaire Zelensky. Il était présent lors du coup de téléphone. Et il se dit que l'ambiance est assez mauvaise en ce moment entre les diplomates de carrière et le grand chef Mike Pompeo.
En tout cas, Donald Trump, lui, dément avoir mandaté officiellement son avocat.
Oui, c'est ce qu'il dit, sauf qu'il y a quelques jours, il y a une personne qui a fait un témoignage très embarrassant pour Donald Trump. Il s'agit de Lev Parnas, qui est un Américain d'origine ukrainienne. C'est un ancien associé de Giuliani. Et en fait, il était devenu une sorte de fixeur pour Giuliani. Il faisait la liaison entre Trump et son avocat et les autorités ukrainiennes.
President Trump knew exactly what was going on. He was aware of all of my movements. I wouldn't do anything without the consent of Rudy Giuliani or the president.
Voilà, donc là, Lev Parnas, il dit le président savait très bien ce qu'il se passait. Il était au courant de tous mes mouvements. Je ne faisais rien sans le consentement de Giuliani ou du président. Sinon, pourquoi le cercle rapproché du président Zelensky ou Poroshenko acceptait de me rencontrer? Et c'est d'autant plus gênant pour Donald Trump qui a dit plusieurs fois ne pas connaître Lev Parnas.
Sauf qu'il y a des photos de Parnas avec Giuliani au Trump Hotel avec le président. Cette photo, je ne sais pas si vous la connaissez, où ils sont tous les deux, je crois, le pouce levé, genre comme deux vieux potes.
Et il y a des vidéos aussi.
Et il y a des vidéos. Ouais. Clairement, ce Lev Parnas, qui est assez mystérieux, sauf qu'il parle dans tous les médias maintenant depuis quelques jours, est un personnage central de toute cette affaire.
Et il y a même un écran géant actuellement installé devant le Congrès avec les vidéos de Parnas qui tournent pendant ce procès en destitution de Donald Trump. C'est vraiment un personnage central.
Et puis juste à côté de l'Ukraine, évidemment, il y a la Russie, dont l'ombre plane sur Donald Trump depuis le début de sa présidence.
Et même avant, peut-être même.
Oui, parce que même pendant la campagne, il y a une rencontre qui avait été rapportée par les médias américains entre l'ambassadeur russe et Donald Trump. Lui ne s'en rappelle plus, mais c'est vrai que la Russie, dès le début, elle est présente autour de cette présidence Trump.
Et souvenez-vous aussi de cette grande rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'était à Helsinki, donc grand sommet en juillet 2018 entre les deux hommes. Rencontre au cours de laquelle le président Trump ne s'était pas rangé derrière ses agences de renseignement concernant l'ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016. Il avait accepté la version qui était offerte par le président Poutine, c'est-à-dire que la Russie ne s'est pas ingérée dans le scrutin présidentiel.
Et ça, on s'en souvient évidemment, c'était en pleine affaire russe, au moment où le procureur Mueller enquêtait. Alors cette confiance, cette proximité, Donald Trump ne la réserve pas seulement à Vladimir Poutine.
I was really being tough, and so was he. And then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters. And they're great letters. We fell in love.
On était durs tous les deux et puis on s'est écrit de très belles lettres. On est tombés amoureux. De qui parle Donald Trump dans cet extrait?
Un certain Kim Jong-un.
Kim Jong-un. Oui, c'est une autre caractéristique de la politique étrangère de Donald Trump. Il mise avant tout sur ses relations personnelles avec les autres dirigeants. Il fait confiance seulement à son instinct. Il ne s'embarrasse pas de la vie des diplomates. Écoutez d'ailleurs ce qu'il disait avant sa première rencontre avec le dirigeant nord-coréen en juin 2018.
I don't think I have to prepare very much. It's about attitude, it's about willingness to get things done.
Je n'ai pas besoin de me préparer beaucoup, c'est une question d'attitude, de volonté, c'est pas une question de préparation, expliquait le président juste avant de briser cet énorme tabou, c'est-à-dire rencontrer le dictateur nord-coréen.
Bon, sauf que tu te souviens, Anne, tu étais à Singapour, on y était, vous étiez pour la première rencontre avec Kim, il y avait ce sommet historique qui a franchement parlé deux ans après a fait pchit quoi, c'est-à-dire que les Nord-Coréens continuent à développer leur programme balistique et sans doute nucléaire, et en tout cas les accolades de Singapour sont quand même un lointain souvenir aujourd'hui.
Oui, et Kim Jong-un n'est pas un cas isolé, Donald Trump en général n'hésite pas à afficher sa proximité avec les dictateurs, on le voit aussi avec le président égyptien El Sisi.
Oui, t'étais correspondante en Égypte toi,
oui,
d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Au moment de l'arrivée au pouvoir de Sisi.
Voilà, et en fait depuis son arrivée à la Maison Blanche, eh bien Donald Trump ne cache pas son estime, voire parfois son admiration pour El Sisi. À Biarritz Blitz en septembre dernier. Il a carrément dit devant des officiels américains et égyptiens, alors qu'il attendait El-Sisi dans une salle, « Où est mon dictateur préféré ?» Alors les gens qui étaient sur place ont décrit des regards médusés, mais Trump n'a aucun problème à se montrer aux côtés de dictateurs tant que c'est bon pour la sécurité ou l'économie des États-Unis.
C'est vrai que cette relation qu'entretient le président américain avec ses dictateurs, ses hommes de pouvoir, finalement on est assez proche du style du businessman, hein. C'est le style Trump de New York, on parle de chef à chef.
Du businessman, en particulier dans le milieu de l'immobilier, hein, qui mouille souvent à New York, en tout cas avec la mafia ou des réseaux peu recommandables.
C'est le style Trump qui est utilisé dans la diplomatie finalement.
Et c'est bon pour lui.
Et il y a un aspect transactionnel effectivement. Par exemple, on parlait de Kim Jong-un, le premier sommet à Singapour. Souvenez-vous quand même de ce vidéoclip offert aux Nord-Coréens réalisé
incroyable,
par le département d'État, où il disait en gros, si on devient copain, on va utiliser vos superbes plages et on va construire des complexes touristiques absolument formidables. C'est ça l'avenir de la Corée du Nord. Donc il y avait derrière l'aspect diplomatique un gros truc business. Franchement, arrêtez avec votre nucléaire et nous on va venir investir chez vous.
En tout cas, sur la scène internationale, tout le monde a très vite compris que toute la politique étrangère américaine reposait désormais sur le seul président et que la qualité des liens établis avec lui était primordiale. Mais en même temps, comme dirait le président français, avec Donald Trump, rien n'est jamais garanti.
Ah bah oui, avril 2018, la bromance avec Emmanuel Macron, la visite d'État, le dîner d'État, la réception à la Maison Blanche.
Ça n'a pas trop bien marché. Hein.
Ça a assez quand même vite mal tourné, hein, parce que le point de difficulté, c'était l'Iran. Et en fait, les deux hommes sont repartis fâchés. Puis on voit que la relation entre Emmanuel Macron et Donald Trump, elle est coup-ci, coup-ça depuis.
Et on l'a expérimenté, ça aussi, cette difficile relation-là au Canada, entre autres au sommet du G7 en 2018. Et là, on a fait toutes sortes d'acrobaties diplomatiques pour s'assurer que les États-Unis signent le communiqué final, entre autres sur la question de l'environnement. Donald Trump, qui était là, accepte, signe le communiqué, prend l'avion. Justin Trudeau fait une conférence de presse dans laquelle il critique les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium canadien. Le président qui est dans son avion...
C'est ça, il a regardé la conférence de presse, hein, c'est
si absolument, à bord de l'avion, n'a pas apprécié, a écrit sur Twitter qu'il se retirait de cet accord. Et finalement, il a fallu refaire évidemment tous nos reportages, mais s'en sont suivis des attaques contre Justin Trudeau, notamment de la part de Peter Navarro, un conseiller de Donald Trump.
Chris, there's a special place in hell for any foreign leader that engages in bad faith diplomacy with President Donald J. Trump.
Qui a dit qu'il y avait une place spéciale en enfer pour les dirigeants qui agissent comme Justin Trudeau à l'endroit de Donald Trump. Alors depuis ce temps-là, on est très très prudent au Canada.
Washington DC, le balado des radios francophones publiques, s'est installé sur la mezzanine réservée à la presse au département d'État. Alors pour y accéder, il faut emprunter de longs couloirs souterrains.
Et d'ailleurs, dans ces couloirs, tout le long, il y a des photos de Mike Pompeo lors de ses différentes visites.
Oui, alors Donald Trump salue régulièrement le travail de Mike Pompeo, hein, son secrétaire d'État, mais il n'a aucun égard pour les diplomates en général. Hein. Et d'ailleurs, près de 21% des postes clés du département d'État ne sont toujours pas pourvus, selon un décompte du Washington Post. Bon, alors on est ici pour parler évidemment de politique étrangère, mais ce qui préoccupe Donald Trump avant tout, hein, il le répète constamment, ce sont pas vraiment les affaires du monde, hein, ce sont celles des Américains. Et sa politique étrangère, en fait, c'est aussi et surtout une politique destinée à satisfaire son électorat. Le cas le plus frappant, Raphaël, c'est Israël.
Oui, avec un exemple, le transfert controversé, vous vous rappelez, de l'ambassade américaine à Jérusalem. Ça, c'est une promesse de campagne, mais c'est aussi un très bon calcul électoral de Trump, hein, parce que ce genre de décision, c'est pour flatter les évangéliques. 50 millions de personnes aux États-Unis, ils ont voté en masse pour Donald Trump, plus de 80%. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres sur la façon dont le président utilise la diplomatie à des fins électorales.
Grégory, toi, tu as été correspondant à Jérusalem. Ces deux décisions, le transfert de l'ambassade, mais aussi la reconnaissance de l'annexion du plateau du Golan, étaient espérées depuis fort longtemps là-bas. Mais avant, c'était un outil de négociation.
Oui, sauf que là, on peut dire que clairement, Donald Trump, il suit la ligne qu'il a annoncée, même avant son élection. C'est cadeau aux Israéliens. Il nomme un ambassadeur, David Friedman, qui est un pro-colonie israélienne en Cisjordanie. Il coupe les fonds aux Palestiniens, notamment à l'UNRWA, qui est l'agence de soutien aux réfugiés palestiniens. Et puis en même temps, il travaille à un plan de paix qu'il confie à son gendre, Jared Kushner, mais ce plan de paix, on ne le voit pas venir. Donc c'est soutien sans faille à Israël et déni total du droit des Palestiniens.
Et ce soutien-là lui a valu, sur le plateau du Golan, un village qui a été nommé au nom de Donald Trump, n'est-ce pas, par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
President Donald J. Trump.
Avec l'Iran, en revanche, pas de cadeau. Hein. Donald Trump mène une politique très dure. L'un de ses premiers gestes, ça a été de se retirer de l'accord sur le nucléaire. Il a ordonné récemment l'exécution de Qassem Soleimani, le tout-puissant général de l'unité d'élite des gardiens de la Révolution. Ça aussi, c'était un geste à visée électorale, Sonia ?
Oui, puisqu'apparaître comme un homme fort, ça plaît à son électorat et à de nombreux élus républicains qui ont encore en souvenir la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran de fin 79 à janvier 81. Les Américains connaissent bien cette histoire qui a traumatisé le pays à l'époque. Depuis ce drame, l'Iran est devenu l'ennemi juré des États-Unis. Et puis, on le sait, Donald Trump a diabolisé Téhéran pendant sa campagne électorale.
Et toi, tu as rencontré un des otages qui était dans l'ambassade de Téhéran.
Oui, tout à fait. John Limbert, qui faisait partie donc des 52 otages américains. Et il m'a dit en fait qu'il n'aurait jamais imaginé que cet événement marquerait à ce point et pendant si longtemps les relations entre Washington et Téhéran.
I mean, it's been 40 years that U.S. and Iran have been estranged. That's very sad. But one of the factors are the events of 1979, 1980.
Voilà, il dit, ça fait 40 ans que les États-Unis et l'Iran sont brouillés. C'est très triste. L'un des facteurs pour expliquer ça, ce sont les événements donc de 79-80. C'est une situation qui a pourri, qui n'a jamais été résolue. Et puis, moi aussi, dit qu'en fait, aujourd'hui, en Iran, eh bien, les gens espéraient un changement de régime à Washington.
In Washington.
Alors on en parlait tout à l'heure, l'importance des liens entre Donald Trump et les autres dirigeants. Avec l'Iran, évidemment, c'est l'excès inverse. Tous les liens sont coupés et c'est le moment où il faut évoquer le rôle majeur
De ce grand pays,
de cette petite confédération qu'est la Suisse, Raphaël.
Oui, c'est ça, la Suisse qui joue depuis 40 ans ce rôle de messager entre les États-Unis et l'Iran. Et il y a un homme important qui joue un rôle clé, c'est l'ambassadeur suisse à Washington. Il s'appelle Jacques Pitlou.
C'est un rôle qui nous donne une visibilité exceptionnelle dans cette capitale, qui tient au fait que les Américains et les Iraniens savent qu'il n'y a jamais de fuite. Et c'est précisément cette discrétion légendaire des Suisses sur ce dossier qui fait que nous pouvons continuer à gérer cette relation.
Bon, tout est dit.
Ouais, t'as bien fait de le voir.
Discrétion légendaire des Suisses.
Mais du coup, l'exécution du général Soleimani, ça va compliquer leur travail ?
En fait, pas du tout, parce que ce genre de crise, ça augmente les relations. Et pour les diplomates suisses, c'est bénéfique, puisque quand ils appellent la Maison-Blanche, quand ils appellent le Conseil national de sécurité, les gens répondent. Donc il y a une vraie relation que les Suisses peuvent avoir avec l'administration Trump en ce moment.
Alors c'est bon pour les Suisses, mais ça risque quand même d'avoir des conséquences possiblement dramatiques sur la région. En tout cas, ça a conduit le Parlement irakien à voter en faveur du départ des troupes américaines, alors que justement le dispositif militaire américain vient d'être renforcé. On a parfois l'impression que le président mène une politique à très court terme, notamment pour plaire à ses électeurs, et qu'il agit en fait sans mesurer les effets à long terme de ses actes.
Il y a une ancienne employée de l'administration de Trump qui m'a très bien expliqué ça. Elle était la porte-parole de Jim Mattis, vous savez, le secrétaire à la défense qui a démissionné avec fracas fin 2018 parce que Trump venait d'annoncer le lâchage des alliés kurdes et le lâchage des alliés kurdes. Mattis n'avait pas supporté. Il a claqué la porte et Dana White, qui était sa porte-parole, a aussi claqué la porte derrière. Et elle raconte comment une décision est prise dans le bureau ovale quasiment par Trump seul et qu'ensuite l'administration doit courir derrière.
It's not chaotic, but it's different from any other president we've ever had. He has a different leadership style.
Avec des propos quand même assez diplomatiques, elle dit c'est pas chaotique, mais c'est un style très différent. Et en gros, en filigrane, c'est Trump qui prend les décisions et nous, on n'a pas grand-chose à dire derrière.
Et il y a une autre lecture aussi qu'on peut faire de la politique étrangère de Donald Trump, c'est celle de l'anti-Obama. Pensez à tout ce qu'a voulu déconstruire le président par rapport à son prédécesseur. Il a quitté l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord sur le climat signé à Paris, et puis il y a aussi eu, par exemple, ses frappes en Syrie après une attaque chimique, ce qu'Obama n'avait finalement pas fait, même s'il avait averti qu'il allait le faire. Alors, il y a beaucoup d'anti-Obama aussi dans ce qu'on voit en termes de politique étrangère de la part du 45e président.
Ce c'est vrai, mais pour Donald Trump, quand même, le vrai marqueur hein, de ses relations avec les autres pays, c'est la balance commerciale. C'est presque une obsession hein, pour lui. Il brandit toujours le chiffre, le déficit.
On en revient à cette image du businessman, le côté transactionnel. C'est toujours là hein, dans la diplomatie pour Trump.
Et c'est ce qui fait qu'il a lancé la guerre commerciale avec la Chine. Alors justement, toi, Raphaël, tu as été correspondant en Chine hein, avant d'arriver ici. Ils viennent de signer cet accord préliminaire. Ça veut dire que Donald Trump a gagné son bras de fer, finalement que sa manière forte paye parfois.
Bon alors, au niveau de la balance commerciale, effectivement, Trump peut se montrer comme le grand gagnant, mais les Chinois n'ont finalement rien lâché. Hein. Toutes ces questions de propriété intellectuelle, le transfert des technologies, les subventions des entreprises d'État, tous ces changements structurels n'ont pas eu lieu dans l'accord. Et un élément qu'il faut garder en tête, c'est que le président chinois, Xi Jinping, n'était pas hein, à Washington, il n'était pas à la Maison-Blanche, il n'a pas du tout abdiqué. C'est plutôt une grosse opération de communication qu'a mené Trump au niveau de l'accord commercial.
Alors là, c'est le moment du podcast où je voulais passer mon 45 tour préféré, mais j'ai pas ma platine, alors je peux vous fredonner un peu.
Ah bah s'il te plaît, oui.
Young man, there's no need to feel down, I said, young man. Vous chantez le refrain, vous connaissez. It's fun to say.
Est-ce que c'est ce que je crois? Non.
YMCA. Et alors pourquoi je fredonne ça?
Ah, parce que c'est parce que t'as le 45 tours.
Mais non, mais vous savez pas, c'est le conseil de Donald Trump pour qu'on puisse se souvenir de USMCA, c'est l'acronyme du nouvel accord commercial avec le Canada et le Mexique. Je me tourne là vers toi, Raphaël, évidemment, notre Canadien. Donald Trump, là aussi, a parlé de victoire. Pareil que les Chinois, c'est une victoire relative en réalité?
C'est un accord d'ailleurs que nous on appelle ALENA 2.0 parce que c'est beaucoup plus simple pour s'en souvenir. Alors, le président a fait quand même quelques gains, notamment sur les salaires au Mexique. Et ça, c'était important pour sa base, pour les gens qui ont voté pour lui. Moi, pendant le processus, je me suis rendu en Indiana où il y a des gens qui perdaient leur emploi. Ils étaient délocalisés vers le Mexique. Et il y a une des travailleuses qui m'avait dit...
Say what you mean what you say. You know what I mean? If you're gonna make promises like that to the American people,
si vous faites des promesses comme celle-là, il faut que vous les réalisiez. Alors le président aujourd'hui, même s'il y a des gens, y compris Bernie Sanders par exemple, qui disent que ce nouvel accord ne va pas du tout assez loin pour les travailleurs, eh bien le président peut dire à sa base mission accomplie.
En tout cas, la signature de ces accords hein, avec la Chine, avec le Canada et le Mexique est tombée à point nommé pour Donald Trump, juste au moment où l'acte d'accusation était transféré au Sénat.
Oui, sauf que ces accords commerciaux, c'est rien pour les médias américains comparé à ce qui se passe en ce moment au Congrès.
Et on a senti Donald Trump d'ailleurs très frustré.
I did the biggest deal ever done in the history of our country yesterday in terms of trade, the deal with China. And that was the second story to a total hoax.
Oui, là, il dit, j'ai signé l'accord commercial le plus important de l'histoire de ce pays, l'accord avec la Chine, et c'est passé derrière cette mascarade complète.
Voilà, bon, bah, comme prévu, on n'a pas été exhaustif, hein, on a à peine survolé le dossier syrien, on n'a pas parlé de la défiance de Donald Trump vis-à-vis de l'ONU, de l'OTAN.
On a oublié de préciser aussi qu'il y a un accord de libre-échange possible entre la Suisse et les États-Unis, Anne.
Anne, on n'a pas évoqué non plus tous les pays dont les drapeaux sont là derrière toi, parce que ici, dans ce grand hall du département d'État, tous les pays qui ont des relations diplomatiques avec les États-Unis sont représentés.
Oui, donc on remarque l'absence notamment des drapeaux de l'Iran et de la Corée du Nord.
Des pays qui pourtant sont importants dans la politique étrangère américaine. La preuve, c'est qu'on en a parlé aujourd'hui.
Et on n'a pas parlé non plus du possible retrait des troupes américaines du Sahel, ce qui inquiète beaucoup en Afrique et sûrement ici aussi au département d'État. Mais tout ça nous laisse plein de sujets possibles. Hein. Pour les prochains podcasts, Washington DC, on se retrouve... dans 15 jours, dans un autre lieu de cette capitale américaine. Et en attendant, eh bien, vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce balado sur les plateformes de vos radios. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
It was actually a beautiful conversation.
Washington DC avec
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada,
Sonia Dridi, RTBF,
Grégory Phillips, France Info,
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse,
Anne Corpet, RFI.
Réalisé par
Mathieu Balmer.